Un président sortant, Donald Trump, qui au moment où on enregistre ce podcast, ce balado, n'a toujours pas concédé sa défaite. Un président élu, Joe Biden, qui depuis le Delaware avec ses équipes prépare son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Voilà la situation un peu figée dans laquelle on se trouve. Et pour en parler, les amis, je vous ai donné rendez-vous dans l'un des plus beaux lieux de Washington. On est à Union Station, la gare ferroviaire de la capitale fédérale. C'est vrai que c'est beau, ça ressemble un petit peu à la gare de Grand Central à New York.
Ouais, tu parles de New York, vous savez que l'architecte qui a conçu cet édifice ici à Washington, Daniel Burnham, a aussi été à l'origine d'un édifice très célèbre de New York, le Flatiron Building à Manhattan.
Et il paraît qu'il y a une suite présidentielle un peu plus loin dans la gare. Je crois que c'est derrière nous, là-bas. En fait, c'était un endroit où le président américain pouvait rester pendant qu'il, voilà, en attendant le train. Et maintenant, c'est un espace qu'on peut réserver. Ah, a priori, bon. C'est privatisé et on peut enregistrer des balados, ce genre de choses.
Et vous avez vu juste au-dessus, là, l'énorme horloge. Il y a une anomalie.
Non, c'est quoi ?
Eh bien, regarde le chiffre 4. C'est un chiffre romain, mais ils se sont trompés. Ils ont mis 4 bâtons au lieu un devant un V, normalement.
Il manque le V, ouais.
Et bon, moi, je vais casser un peu l'ambiance, mais je ne suis pas très fan. En fait, j'ai toujours trouvé cet endroit un peu déprimant, très sombre. Et en plus, le quartier où se trouve la gare n'est pas très sympathique. Il n'y a pas grand-chose autour. Et c'est vrai que j'ai jamais été fan de venir à Union Station.
Bon, du point de vue architectural, en tout cas, c'est assez impressionnant. On vous invite, si un jour vous venez à Washington, à venir visiter ce lieu. Pourquoi on s'est donné rendez-vous ici à Union Station ? Eh bien, parce que c'est la ligne directe entre Wilmington, Delaware, le fief de Joe Biden, et Washington, la capitale fédérale. Il y a quoi ? 1h30 de train entre les deux villes ?
Oui, et je crois qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais c'est vraiment la ligne qu'a empruntée pendant 36 ans Joe Biden. Tous les jours, il prenait le train pour venir au Congrès à Washington, et le soir, il rentrait pour être auprès de ses fils. Et d'ailleurs, ça l'a un peu empêché de s'intégrer au départ au Congrès parce qu'il manquait toutes les happy hours de Washington.
Et les rails se trouvent d'ailleurs juste derrière nous. C'est ces fameuses rails Amtrak, du nom de la compagnie américaine. On va peut-être entendre des trains qui vont arriver pendant l'enregistrement de l'épisode.
Et d'ailleurs, on l'appelait Amtrak Joe.
Exactement. Ouais.
Et la gare à Wilmington, on l'a déjà dit aussi, porte le nom de Joe Biden.
Et donc, au panneau des arrivées, le prochain train en provenance de Wilmington est annoncé à 15h04. J'ai vérifié. D'ici 2 mois, donc, d'ici le 20 janvier, c'est Joe Biden qui débarquera à Washington pour s'installer à la Maison Blanche. On verra d'ailleurs s'il arrive en train. Ce serait assez symbolique. En attendant, le président élu travaille. Il prépare une transition compliquée. Il constitue ses équipes. Avec moi, pour en parler, il y a
Anne Corpet, RFI.
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Grégory Phillips, de France Info. L'équipe Biden est sur les rails. Vous avez compris la métaphore ferroviaire.
Très fort.
C'est l'épisode 29 de Washington DC. Tout le monde à bord. Attention au départ.
Chou-chou. This is a fraud. This is an embarrassment to our country.
And now it is my incredible and great honor to introduce our president-elect, Joe Biden.
I made it clear, they want the country to come together.
It's one of the great days in American history.
Washington, D.C.
More people may die if we don't coordinate now.
Une transition compliquée donc entre Donald Trump, 45e président des États-Unis, et Joe Biden, futur 46e. Compliquée parce qu'au moment où on se parle, on est le mercredi 18 novembre, en début d'après-midi, Trump n'a toujours pas concédé sa défaite. Et ce qu'on appelle la période de transition, qui normalement est assez longue ici, presque 2 mois et demi, n'a pas pu débuter. Il y a une femme pourtant, Raphaël, qui pourrait débloquer toute la situation. Elle s'appelle Emily Murphy.
Voilà, Emily Murphy, que personne ne connaissait a priori à Washington il y a encore quelques mois. Emily Murphy, aujourd'hui, elle a le surnom d'être la femme la plus puissante de Washington actuellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est la directrice des services généraux de l'administration. Vous savez, c'est ce bureau de l'administration américaine qui doit signer ce document pour reconnaître la victoire de Joe Biden et ensuite débloquer des fonds, à peu près 10 millions de dollars, et aussi débloquer l'accès aux agences fédérales pour l'équipe de transition de Biden. Et cette Emily Murphy, elle ne reconnaît toujours pas la victoire de Biden et donc bloque tout le processus actuellement.
Pourquoi ? Parce qu'elle est républicaine ou ?
Alors parce qu'elle est surtout très loyale à Donald Trump et elle s'aligne en fait sur la position de Donald Trump. Je ne reconnais pas Joe Biden comme président élu. Alors en ce moment, il y a pas mal de manifestations qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Il y a même aussi une dizaine de cartons qui ont été déposés devant ses bureaux des services généraux. Dans ces cartons, 250 000 signatures récoltées en 5 jours.
250,000 now. So in 5 days, it's gone from zero to 250,000.
Et là, vous entendez Reggie Hubbard, qui est l'un des organisateurs qui a récolté ces 250 000 signatures. Et il explique sur CNN que oui, il y a bien 250 000 signatures, mais surtout, il y a 79 millions d'Américains qui ont voté pour Biden et qui s'attendent à ce que cette transition débute enfin.
Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une avocate de Washington DC qui a raconté avoir reçu des dizaines de messages, de coups de fil, d'emails, lui demandant d'agir. Elle a même reçu un paquet de stylos de la part d'un Américain qui lui disait de signer au plus vite ses documents pour lancer la transition.
Et pourquoi elle ?
Bah, en fait, elle s'appelle Emily Murphy aussi, mais c'est pas la bonne. Il y a des milliers d'Emily Murphy aux États-Unis.
En tout cas, c'est la fonctionnaire Emily Murphy qui peut donner le feu vert pour le début de la transition quand elle voudra bien le faire. Ça n'empêche pas le futur président des États-Unis de se mettre au travail, d'avoir des entretiens avec des chefs d'État étrangers.
Ouais, d'ailleurs, si je me trompe pas, Justin Trudeau du Canada était un des premiers à appeler Joe Biden pour le féliciter. Je sais pas pour les autres.
Ah bah, la présidente de la Confédération suisse, vous savez. Vous savez.
Bien sûr.
Juanita Somaruga a appelé, oui, aussi Joe Biden.
Emmanuel Macron aussi. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a même des amis du président Trump qui ont appelé Biden.
Netanyahou, entre autres.
Et Modi, en Inde.
Et donc, nous, correspondants, on reçoit maintenant chaque jour des emails de l'équipe de transition pour nous donner son programme, pour nous donner le contenu de ses entretiens. Un peu comme s'il était déjà président, en vérité. Où est-ce qu'il travaille d'ailleurs en ce moment, Joe Biden, vous savez ?
De Wilmington, de chez lui, avec beaucoup de Zoom. Il y a beaucoup de ses collaborateurs en fait qui ne sont pas à Wilmington. Et en fait, ils ont un peu gardé l'habitude de la campagne en plein coronavirus où beaucoup sont délocalisés.
Il y a eu un petit séjour aussi près de la mer, Rehoboth, dans le Delaware. On a vu Joe Biden apparaître en vélo d'ailleurs.
Voilà, il faisait du vélo. C'est sa maison de vacances qui est là-bas.
Ouais, et qu'il a pu s'acheter après avoir gagné beaucoup d'argent après l'écriture de ses mémoires.
Il a une piscine, il paraît.
En tout cas, donc, le président élu n'est pas encore à Washington. Mais petit à petit, l'équipe qui entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain se constitue. Sonia, tu suis ça de près. Ça y est, peu à peu, on connaît les hommes et les femmes du président, enfin du futur président, ceux qui vont l'entourer à la Maison-Blanche.
Oui, alors déjà, on connaît le nom de son chief of staff, chef de cabinet, Ron Klain. C'est un vieux de la vieille, c'est l'un des plus fidèles compagnons de Joe Biden.
This Sunday, no concession and a growing COVID crisis. My guest this morning, Biden's incoming chief of staff, Ron Klain.
Il était déjà à ses côtés quand Biden était à la tête du comité judiciaire du Sénat. Il a été son chef de cabinet quand il était vice-président de 2009 à 2011. Il avait été aussi chef de cabinet du vice-président Al Gore. Il a notamment coordonné la réponse de l'administration Obama à la crise Ebola. Et surtout, son point fort, c'est qu'il est très apprécié au sein du parti. Sa nomination a même été saluée par les jeunes progressistes et aussi Alexandria Ocasio-Cortez.
En France, ce serait un peu l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée, le chief of staff, je ne sais pas, dans vos pays respectifs.
Chef de cabinet aussi.
Et Sonia, parmi les autres conseillers qui viennent d'être nommés, il y a quelques noms qui émergent.
Oui, tout à fait. Alors, il y a Jane O'Malley Dillon, qui est l'adjointe de Ron Klain. Elle a dirigé la campagne de Joe Biden et c'est la première femme à avoir emmené un candidat démocrate jusqu'à la présidence. Selon le New York Times, c'est vraiment l'un des meilleurs talents du parti. Et un point d'une grande importance pour Joe Biden, elle est d'origine irlandaise, tout comme lui. Parmi les autres noms dont on parle beaucoup, il y a l'influent député de Louisiane, l'afro-américain Cedric Richmond. Il était notamment très proche de Jim Clyburn, dont on a déjà parlé.
Oui, Clyburn, qui est l'architecte de la victoire de Biden lors des primaires démocrates. C'est grâce à lui qu'il a finalement émergé.
Tout à fait.
Caroline du Sud.
Et puis, on parle aussi beaucoup de Julie Rodriguez, qui va être aux affaires intergouvernementales. C'est la petite fille de César Chavez. Alors, vous savez, c'est ce leader syndicaliste qui militait pour les droits des travailleurs agricoles. Et un peu comme Karine Jean-Pierre, eh bien, c'est l'une des étoiles montantes du Parti démocrate.
Karine Jean-Pierre, qui d'ailleurs, selon NBC, serait considérée parmi d'autres candidats pour peut-être devenir la porte-parole de la Maison.
Donc là, on parle des conseillers de Joe Biden, mais il y a quelque chose qu'on va évidemment aussi surveiller de très près, c'est la composition de son futur cabinet. Je sais pas dans vos pays respectifs, mais en France, avant qu'on connaisse la liste d'un gouvernement en général, il y a des jours et des jours de spéculations, de rumeurs, de bruits de couloirs. On va essayer de pas trop rentrer là-dedans. Mais tout de même, il y a quelques noms qui circulent et c'est intéressant.
Parmi les noms qui circulent, il y a entre autres Michelle Flournoy, une ancienne de l'administration Clinton, qui serait considérée pour devenir secrétaire à la Défense.
Et donc peut-être première femme à la tête du Pentagone.
Exactement. Parmi les autres personnes dont on entend les noms, il y a Val Demings, représentante de la Floride, ancienne chef de police d'Orlando, qui pourrait peut-être aller à la sécurité intérieure. Deb Allen, une représentante du Nouveau-Mexique pour le département de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant.
Très symbolique.
Oui, ce serait la première femme autochtone à occuper ce rôle. Et puis, il y a évidemment des gens qu'on connaît beaucoup plus. Elizabeth Warren, qui aimerait bien peut-être aller au secrétariat au Trésor. Bernie Sanders aussi, qui, lui, n'a pas caché son intérêt pour devenir le secrétaire au travail. Et il le dit lui-même en entrevue.
If I had a portfolio that allowed me to stand up and fight for working families, would I do it? Yes, I would.
Bernie Sanders qui dit « Si j'ai un mandat qui me permet de me battre pour les travailleurs, leurs familles, bien sûr que je le ferai. » Il y a quand même un défi, vous savez, à la fois pour Warren et pour Sanders. Ils sont connus pour être très progressistes. Si les Républicains gardent le contrôle du Sénat, pas certains qui seront approuvés. Et par ailleurs, ils viennent d'États dont les gouverneurs sont républicains. Et donc, s'ils quittaient leur poste de sénateur pour joindre le cabinet, ils pourraient être remplacés par un sénateur républicain.
Et puis, il y a même des noms de républicains qui circulent, vous savez, dans le cadre de cette volonté de rassembler tout le pays. Il y a Meg Whitman, une des femmes noires les plus influentes de Wall Street. Il y a Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, ou l'afro-américain Roger Ferguson, qui a longtemps été à la tête d'un gros fonds de pension.
Et puis parmi les noms qui circulent, je note qu'il y a au moins deux francophones, enfin deux qui parlent parfaitement français.
Oui, avec de Karine Jean-Pierre.
En plus de Karine Jean-Pierre.
Oui, notamment avec Pete Buttigieg, dont il faudra réapprendre à prononcer le nom. Pete Buttigieg, qui avait été finalement, il avait été flamboyant durant la primaire démocrate. Il parle plusieurs langues, dont le français, comme tu le disais, Grégory.
Avec Greg, on l'avait vu deux fois dans la même journée pendant les primaires, et à chaque fois, il avait répondu en français.
Et son nom circule notamment pour être ambassadeur des États-Unis à l'ONU, puisqu'il parle effectivement plusieurs langues, ou alors pour avoir d'autres hautes fonctions au sein de l'administration Biden.
Oui, comme par exemple pour être secrétaire d'État aux anciens combattants.
Et puis quelqu'un d'autre qu'on connaît bien aussi dans ce balado, dans ce podcast, qui parle parfaitement français, c'est Anthony Blinken.
Oui, tout à fait. Tony Blinken, qui était vraiment l'un des plus proches conseillers de Joe Biden pendant cette campagne présidentielle. On parle de lui éventuellement pour le poste de secrétaire d'État, ou alors au Conseil de la Sécurité nationale, donc ça serait le nouveau John Bolton. En tout cas, il m'a dit cet été qu'il y avait des dossiers prioritaires une fois que Joe Biden allait être élu, notamment rejoindre l'accord de Paris sur le climat ou encore l'Iran. Leur objectif est de ressusciter l'accord sur le nucléaire avec l'Iran.
Si l'Iran se remet elle-même en accord avec ses obligations, Biden serait prêt à faire de même et puis utiliser cette ouverture pour construire un accord encore plus fort et plus long en durée, parce qu'évidemment, beaucoup de temps est passé depuis que l'accord a été signé.
Mais donc, comme je vous disais, au sein de la campagne Biden, il y a aussi d'autres noms qui circulent pour être secrétaire d'État, notamment Chris Coons, qui est un sénateur du Delaware très proche de Joe Biden et qui plairait aux républicains, parce qu'on parle aussi de Susan Rice, mais elle serait un choix plus difficile à faire accepter aux républicains.
Bon, en tout cas, Blinken, Ron Klain, dont on parlait tout à l'heure, peut-être Susan Rice, c'est un petit peu les années Obama, ça, non, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Joe Biden tente de reconstituer une équipe dissoute, de faire une administration Obama bis, Raphaël?
Ouais, c'est vrai qu'on entend en tout cas beaucoup Obama ces derniers temps. Obama qui a fait campagne pour Joe Biden, Obama qui a sorti le premier tome de ses mémoires et qui donne des interviews à toutes les télévisions américaines. Si bien que la journaliste de CBS, Gayle King, lui a demandé si on le verrait dans le prochain cabinet du président Biden. Réponse d'Obama.
I'm not planning to suddenly work on the White House staff or something.
No cabinet position for you.
There are probably some things I would not be doing because Michelle would leave me.
Yes.
She'd be like, "What? You're doing what?"
Alors Obama effectivement qui dit ben non car ma femme Michelle me quitterait. Alors je sais pas si Obama est sérieux, mais on sent quand même que le 44e président des États-Unis aujourd'hui à la retraite n'en a pas totalement terminé avec la politique. Ça doit parfois être on va dire agité dans le salon des Obama à Washington.
Bon voilà, on pourrait comme ça jouer encore longtemps au jeu des pronostics. On dit aussi que une certaine Hillary Clinton pourrait avoir des responsabilités. On verra bien. Tout ça est évidemment un peu prématuré, mais ça devrait se préciser dans les toutes prochaines semaines. Nous sommes toujours à Union Station, cette gare assez magnifique de la capitale fédérale, parce que c'est presque le chemin le plus direct et le plus simple pour aller de Wilmington à Washington.
C'est très vide par contre en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'activités autour de nous, la plupart des commerces sont fermés.
Ouais, il y a juste une petite boutique de souvenirs qui est restée ouverte, mais ma pâtisserie préférée qui vendait de super bons cheesecake a fermé.
Et on voit quelques voyageurs passer avec leurs sacs, mais on n'est pas du tout dans l'atmosphère habituelle de la gare de Washington.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est la future VP, vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Est-ce qu'on sait quel rôle elle pourra jouer au sein de l'administration Biden, Anne?
Bon, on sait déjà qu'elle sera une vice-présidente comme nulle autre pareille. Hein. On l'a déjà dit, première femme, première fille d'immigrants, première noire, donc beaucoup de premières historiques. Beaucoup d'incertitudes, en revanche, sur le rôle exact qu'elle occupera. Alors, si les démocrates remportent les deux sièges en jeu au Sénat en Géorgie, elle aura un rôle important à jouer parce que c'est elle qui apportera la voix supplémentaire pour obtenir la majorité au Sénat.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, elle était de retour au Sénat pour participer à un vote, Kamala Harris. Et ce que rapportaient des médias, c'est qu'il y a plusieurs républicains qui l'ont félicitée sur le plancher du Sénat, même si officiellement, ils n'ont pas reconnu la victoire du tandem Biden-Harris.
En tout cas, ce qu'on entend beaucoup quand même, c'est que dans les premiers mois, son rôle principal, ce sera déjà d'apaiser la nation sur le sujet des tensions raciales. C'est un peu sur ça qu'elle va se pencher au départ.
Oui, elle va peut-être être chargée d'un dossier particulier comme Mike Pence, hein, qui pilote la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus. Mais sur cette question, Sonia, de la justice raciale, il y a un peu des tensions hein, au sein oui. du Parti démocrate. On en parlait tout à l'heure, James Clyburn, le puissant élu de Caroline du Sud, est un peu critique des demandes les plus ambitieuses du mouvement Black Lives Matter. Il estime que, par exemple, le slogan « Défendre de police » a beaucoup nuit à la campagne au Congrès.
Et Kamala Harris a toujours été plutôt centriste et même proche de la police.
En attendant, le message que veulent faire passer Joe Biden et Kamala Harris, c'est qu'ils s'entendent bien, qu'ils forment une équipe soudée. La vice-présidente élue est relativement discrète, mais dès qu'elle parle, c'est le président élu et moi.
The president-elect and I saw that impact firsthand.
Joe Biden et moi, nous, elle ne se met pas singulièrement en avant.
And the president-elect and I are focused on building our country back better.
Tu le disais, Anne, par exemple, l'actuel vice-président Mike Pence a été en charge de la lutte contre le coronavirus. Ça, c'est un problème vraiment essentiel, Raphaël, cette transition en pleine pandémie.
Oui, parce que ça va très mal aux États-Unis en ce moment. Les cas d'infection sont en hausse dans à peu près tous les États, et il y a des endroits où c'est particulièrement inquiétant. Regardez par exemple ici dans le district de Columbia, au cours des 7 derniers jours, le taux d'infection était de 23 par 100 000 habitants, mais dans d'autres régions, par exemple le Dakota du Nord, ce taux d'infection était de 185 sur 100 000 habitants.
La situation empire vraiment.
On sait que Joe Biden a mis sur place une équipe pour le conseiller, mais il n'y a pas de transition officielle, de discussion officielle entre la Maison-Blanche de Donald Trump et l'administration en devenir de Joe Biden. Et le prochain président croit que ça aura de graves conséquences.
More people may die if we don't coordinate. Look, a vaccine is important. It's of little use until you're vaccinated.
Joe Biden qui croit donc que plus de gens vont mourir en raison de ce manque de collaboration. Il n'est pas le seul d'ailleurs à s'inquiéter. Il y a aussi Anthony Fauci qui est l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche.
Oui, qui a conseillé Donald Trump, qui a conseillé d'autres présidents avant lui et qui va sûrement continuer de travailler avec l'administration Biden.
We want to get doses to people starting in December and then we want to really get the ball rolling as we get into January, February and March.
Il dit on veut commencer à donner des doses en décembre puis accélérer la distribution dans les mois suivants. La meilleure manière d'organiser c'est si les deux équipes se parlent. Donc il dit un peu de façon diplomatique hein, qu'il faut que Donald Trump laisse la transition se faire comme elle devrait se faire.
Vous avez vu vos téléphones, ça a vibré?
Non, attends. Non.
New York ferme ses écoles dû au COVID-19.
Ah ben voilà. Parce
ça
que
tombe à l'instant.
Les taux d'infection augmentent.
Tiens, il y a un nom qu'on n'a pas encore cité et pourtant on dit d'elle qu'elle est peut-être la star montante du Parti démocrate. Je voudrais qu'on parle rapidement de Stacey Abrams, l'élue de Géorgie, qui d'un mot peut nous rappeler qui elle est.
Ouais, Stacey Abrams, vous vous rappelez, elle avait fait sensation lorsqu'elle avait failli détrôner le gouverneur en Géorgie. Stacey Abrams, c'est un peu la nouvelle star de cette élection parce qu'elle a permis au vote des Afro-Américains de faire basculer cette Géorgie dans l'escarcelle de Joe Biden.
Et d'ailleurs, il scandait son nom devant la Maison Blanche le jour de l'élection de Biden.
We knocked on doors in pockets of communities that had never been touched. And we kept coming back. Is there anyone else in your family who needs to register?
Et là, Stacey Abrams explique à Stephen Colbert sur CBS qu'ils ont frappé aux portes, qu'ils sont allés voir toutes les familles, les voisins, qu'ils ont fait un vrai travail de terrain qui a payé et qui explique en fait cette Géorgie qui est devenue bleue en 2020.
On se souvient que cette Afro-Américaine avait été un temps pressenti pour être colistière de Joe Biden. Finalement, c'est Kamala Harris qui a été choisie. Du coup, Raphaël, est-ce que tu penses qu'après ce qui vient de se passer en Géorgie, Abrams va être récompensée? Est-ce qu'elle va avoir un poste?
Ah bah, clairement, son nom est évoqué, par exemple, pour le département de la justice ou pour de hautes fonctions au sein même du Parti démocrate. Elle explique ne pas avoir de plan pour l'instant et elle se concentre sur cette dernière bataille qui se passe toujours en Géorgie, les sénatoriales.
Et d'ailleurs, Raphaël, dès qu'on a terminé cet enregistrement, tu files à Atlanta pour des reportages, pas en train, j'imagine.
Non, là, ce sera en avion pour le coup.
Parce que c'est vrai que l'attention d'à peu près tout le monde aux États-Unis dans le monde politique sera rivée vers ces deux élections le 5 janvier qui vont déterminer du contrôle du Sénat.
Oui, on sent que pour les démocrates, tout n'est pas fini. Ils sont extrêmement mobilisés pour cette élection sénatoriale. Michelle Obama a tweeté sur le sujet. Andrew Yang, qui est un ancien candidat à présidentiel, qui est maintenant très populaire dans le parti, a même décidé de déménager en Géorgie pour mobiliser les électeurs.
Et moi, j'irai voir notamment Mike Pence vendredi en Géorgie. On attend sans doute un Trump ou même un Joe Biden qui feront activement campagne pour ces élections cruciales.
Je ne sais pas si vous avez vu juste derrière nous la porte d'entrée de la gare. On voit à 5 blocs d'ici seulement le Capitole, le Congrès des États-Unis. C'est tout près d'ici, c'est là qu'aura lieu la cérémonie d'investiture.
Oui, d'ailleurs, on a commencé à construire les installations en vue de la cérémonie d'investiture de Joe Biden qui aura lieu le 20 janvier.
Le 20 janvier à midi, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis d'Amérique. Anne, comment ça peut se passer cette cérémonie avec ou sans Trump?
C'est la grande question. Il n'a pas l'air très motivé. En tout cas, rien n'oblige le président sortant à y assister. Il y a 5 cas dans l'histoire où les présidents ont boudé la cérémonie d'investiture de leur successeur. Bon, on verra déjà s'il a reconnu sa défaite d'ici là, Donald Trump. En tout cas, son ancien avocat personnel, vous savez, Michael Cohen, celui qui se disait à l'époque prêt à prendre une balle pour son patron, a une petite idée. Il pense qu'il n'ira pas.
Christmas time, he heads to Mar-a-Lago. And I don't believe he comes back to Washington. I think he stays at Mar-a-Lago all the way through.
Michael Cohen, qui dit que le président va aller à Mar-a-Lago en Floride pour Noël. Et sa théorie, son hypothèse, c'est qu'il y restera jusqu'à l'investiture. Il ne peut pas supporter d'avoir perdu. Cela le tue, explique Michael Cohen, qui parle de l'incompréhension totale de Donald Trump face à sa défaite.
Et en même temps, avouons-le, il fera beaucoup plus chaud et plus beau à Mar-a-Lago qu'à Washington en janvier.
Et puis après cette cérémonie, dès le 21 janvier au matin, l'équipe Biden commencera à travailler à la Maison-Blanche. Là, on sera vraiment dans le concret. Comment ça peut se passer, notamment si Biden n'a pas de majorité au Sénat? Comment est-ce qu'il va pouvoir travailler, gouverner?
En tout cas, pour lui, il faudra revoir à la baisse certaines ambitions sur des dossiers importants, l'assurance santé, le changement climatique, le salaire minimum, et aussi sur la composition de son gouvernement, parce que le Sénat doit confirmer les gens du gouvernement.
Vous savez qu'il y a toujours la bonne vieille habitude des décrets que des prédécesseurs ont utilisé. C'est aussi une possibilité, bien que plus limitée qu'un travail avec le Congrès, évidemment.
Et puis, Joe Biden est vraiment connu pour être l'homme du compromis, qui a toujours négocié avec les Républicains au Congrès. Et d'ailleurs, il connaît très bien Mitch McConnell, parce que pendant longtemps, ils ne se sont pas tellement fréquentés, mais comme Mitch McConnell refusait de négocier avec Barack Obama, c'est avec Joe Biden qu'il négociait quand ce dernier était vice-président, et donc les deux hommes se connaissent plutôt bien.
Bon, bref, tout dépendra de ce qui se passe en Géorgie le 5 janvier.
Et c'est pour ça que Raphaël va nous quitter dans quelques instants direction Atlanta. Allez, on termine cet épisode avec, comme d'habitude, vos questions que vous nous laissez sur notre fil Twitter Washington DC. J'en ai retenu deux cette semaine. La première, question de Séverine. Que peut-il se passer si Trump refuse de reconnaître sa défaite et de partir? Quels sont les recours des démocrates, Sonia?
Alors, je crois que les démocrates sont assez confiants sur le fait que Donald Trump va finalement laisser Joe Biden prendre place dans le bureau ovale. En tout cas, ils ont déjà dit que si refusait, les Secret Service étaient habitués, je cite, à faire sortir les intrus de la Maison Blanche.
Oui, parce que la Constitution est claire, son mandat s'achève bien à midi le 20 janvier.
Raphaël, une question d'Olivier Albert. Trump peut-il se représenter en 2024 hors d'un parti politique, en clair, sans être le candidat du Parti républicain?
Oui, la réponse, c'est oui. Un président peut faire deux mandats. C'est pas nécessaire que ces deux mandats soient consécutifs. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire. Teddy Roosevelt, entre autres, qui a été président républicain, s'est présenté en 1912 sous la bannière du Parti progressiste. Ça a nuit aux républicains. Ce sont les démocrates qui avaient gagné cette élection, d'ailleurs.
Et on me souffle dans l'oreillette que Teddy Roosevelt aurait signé le projet de loi qui a permis la construction de ce magnifique bâtiment dans lequel on enregistre le balado, la gare de Washington.
Merveilleux.
Voilà, c'était l'épisode 29 de ce podcast, ce balado Washington DC, enregistré dans le grand hall de cette gare, Union Station. On le fait assez rarement, mais voyager en train en Amérique est aussi une aventure incroyable. Tiens, faudrait qu'on imagine une tournée ferroviaire de Washington DC, ce serait assez formidable. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires, vos critiques aussi ou vos questions sur notre fil Twitter. On vous postera quelques images de Union Station et on se retrouve dans 15 jours pour le 30e épisode de Washington DC. 30e. J'ai le sentiment qu'il va se passer encore pas mal de choses d'ici l'investiture de Joe Biden.
Dans 4 minutes, il y a le train de Wilmington qui arrive, Grégory.
Exactement. On attend. À commencer par le vote des grands électeurs. Ça, ce sera le 14 décembre. Et on sera là, évidemment, pour vous le raconter. À très vite.
Au revoir.
Washington DC avec
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Anne Corpet, RFI.
Grégory Philips, France Info.
Réalisé par
Mathieu Balmer.
Moi, il y a un truc que j'adore dans les aéroports ou les gares, c'est de regarder le panneau des départs et m'imaginer partir vers des destinations lointaines. Là, si on regarde le panneau, où est-ce que vous partiriez?
Moi, j'irais bien à Chicago, cette ville magnifique où Obama a débuté sa carrière politique.
Moi, à défaut d'avoir Atlanta, Géorgie, je dirais New York. C'est toujours sympa le trajet Washington-New York.
Puis nous, Anne, on doit aller au Dakota du Nord en reportage pour
Bismarck.
Dimanche.
En train, ça va être très long.
Je pense que ce serait long, effectivement.
On va prendre l'avion.